السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, la Jalsa Salana de l'Allemagne débute avec ce sermon de vendredi. Qu'Allah fasse que cette Jalsa soit bénie et que cette Jalsa et toutes ses bénédictions puisse renouveler notre foi et que cette Jalsa insuffle en nous un nouveau esprit. Que nous puissions tout le temps avoir en tête les objectifs pour lesquels le Messie premier alayhi salam a organisé la Jalsa. Ses buts étaient que nous puissions comprendre l'importance du serment d'allégeance et que nous puissions progresser dans notre foi et dans notre certitude, que nous puissions accorder prééminence à l'amour pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions aussi progresser dans le domaine de la vertu, que nous puissions aussi progresser dans notre connaissance religieuse, dans notre réforme, en écoutant ces discours imbus de spiritualité, que nous puissions aussi établir des liens d'amour et de fraternité, et que nous puissions aussi progresser dans ces liens de fraternité. Et pour que nous puissions aussi prier pour nos frères qui nous ont quittés au cours de l'année écoulée, des frères et des sœurs qui se sont séparés de nous en respectant leur serment d'allégeance. Durant ces 3 jours, donc, nous devons avoir en tête ces objectifs et c'est là que nous allons profiter des bénédictions de cette Jalsa. Durant ces 3 jours, donc, vous devez faire des efforts pour atteindre ces objectifs et essayez aussi de vous réformer et priez aussi. Priez d'une part pour vous, et priez aussi pour tout membre de la Jamaat, afin qu'Allah leur accorde sa protection là où ils sont. Priez surtout pour vos frères Ahmadis du Pakistan. Ces temps-ci, au Pakistan, la situation de la communauté est de plus en plus difficile. Les ennemis de la communauté ont la voie libre. Qu'Allah accorde la persévérance aux Ahmadis du Pakistan, qu'il renforce leur foi et qu'il les protège de tout mot. Qu'Allah accepte aussi leurs sacrifices et qu'il montre des signes miraculeux en leur faveur. Avant de venir vers le sujet d'aujourd'hui, je vais parler à propos de l'organisation de la Jalsa. Il y a différents départements qui travaillent pour l'organisation de la Jalsa. Et pour chaque département, il y a des officiers et des volontaires, et ils sont là pour servir les invités. Ce sont des personnes qui ont différentes professions et qui se présentent pour servir les invités du Messie premier l'Islam. Et par la grâce d'Allah, généralement, ils sont en train de servir en toute abnégation uniquement pour la cause d'Allah. Parmi eux, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, et il y a aussi des enfants. Et chacun d'entre eux, par la grâce d'Allah, est en train de s'acquitter de ses devoirs. Donc, les participants de la Jalsa doivent coopérer avec ses volontaires. Il y a certains principes qui ont été mis en place. Ces principes sont là pour que nous puissions avoir une très bonne organisation au sein de la Jalsa. Si un volontaire attire votre attention vers un fait quelconque, vous devez suivre ses directives. Vous ne devez pas vous courroucer. J'ai déjà parlé avec les volontaires en leur disant qu'ils doivent faire preuve de courtoisie en s'acquittant de leurs tâches. Le deuxième point vers lequel je veux attirer l'attention des participants de la Jalsa est qu'ils doivent surveiller leurs alentours. Regardez ce qui se passe autour de vous. C'est vrai qu'on a pris des mesures de sécurité, mais certaines personnes mal intentionnées peuvent commettre des méfaits. Parce que aujourd'hui, partout, les opposants de la Jamaat essayent de tourmenter la Jamaat, essayent de nuire à la Jamaat. En dépit des mesures de sécurité, ils peuvent aussi tromper les autres et pénétrer au sein de la Jalsa. C'est vrai donc qu'il y a ces mesures de sécurité, c'est pour cette raison que vous devez coopérer avec les préposés. Même si on vous vérifie 10 fois, vous devez obtempérer. On ne vous vérifie pas pour vous humilier ou parce qu'on a des doutes à votre propos, on le fait pour votre propre sécurité. C'est pour cette raison que vous ne devez pas faire cela une question d'ego. Si quelqu'un vous accompagne comme invité, il aura le droit d'entrer lorsque les préposés de la sécurité vont donner leur permission, lorsqu'ils seront satisfaits. Et vous allez devoir suivre pour cela les directives mises en place par les organisateurs. Qu'Allah vous accorde à tous sa protection. Et qu'il fasse aussi que vous puissiez profiter au maximum des bénédictions de la Jalsa. Maintenant, je me tourne vers le sujet d'aujourd'hui Et aujourd'hui, je vais parler à propos de ces martyrs qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie et qui ont ouvert pour nous de nouvelles voies. En premier lieu, je vais évoquer Mokram Khalil Ahmad Saheb Sulangi, fils de Nasir Ahmad Sulangi. Je ne suis pas en train de suivre un ordre spécifique, mais je ne fais que présenter les détails que je reçois. Les aïeux de Khalil Ahmad étaient du village Khara, qui est à côté de Qadian. Son grand-père, Master Mohad Bakhsh, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Et Abdul Qadir Sudagar Mal était parmi ses parents. Après la partition, ils sont partis à Gujranwala. Le martyr a travaillé dans la région de Wardha et ensuite il a lancé un business avec son père. Après le décès de son père, il a lancé son propre business. En 1997, il s'est établi à Lahore. Et il a travaillé ici et il faisait de l'import-export et lui-même il habitait aux États-Unis d'Amérique. Avant cela, il avait travaillé au Pakistan. Il était Nazim Atfal ici au Pakistan. Il était aussi Qaid Zila. Il a travaillé au sein de la Khuddamul Ahmadiyya à Gujranwala. Il a travaillé au sein de la Majlis Ansarullah de Lahore. Il était président du département pour le travail et le commerce. Il était le secrétaire général pour la région de Lahore. Il avait 51 ans lorsqu'il est décédé. Par la grâce de Allah, il était un moussi. Il est décédé à la mosquée d'Arouzikar. Il est venu un mois de cela des États-Unis pour s'occuper de ses affaires. Et il s'est présenté à la mosquée d'Arouzikar pour la prière de Jumma. Au cours de l'attaque, il était sous les escaliers avec les autres Ahmadis. Il est resté là-bas pendant une heure. Peut-être qu'il pouvait partir au sous-sol, mais il avait vu des frères blessés et il l'a tiré sous les escaliers. Et c'est là qu'il a été la cible du terroriste et il a reçu des balles à la poitrine. Il est resté dans cet état pendant plusieurs heures, mais Allah lui a accordé le statut de martyr et il est décédé dans la mosquée. Lorsqu'il y a eu cette attaque à Darouzikar, il a téléphoné à son fils Shoaib Sulangi en l'informant et en lui demandant de prier pour qu'Allah leur accorde sa protection. Il était sincère, il était toujours présent pour faire des sacrifices financiers. Tout jeune, il a eu de grandes responsabilités au sein de la communauté et il servait la communauté. Et il participait dans tout plan financier de la communauté et il dépassait les autres dans ce domaine. Il a bâti une mosquée dans un quartier à Gujranwala. C'était une personne vertueuse, une personne diligente, une personne qui a donné une bonne éducation à ses enfants. Avant de commencer quelque chose, il demandait des prières et la permission du calife. Il avait un très grand sens d'obéissance envers le calife. Il avait des affaires au Pakistan, mais pour certaines raisons, je lui ai dit de partir s'établir aux États-Unis d'Amérique. Et c'est là qu'il a tout ramassé à Lahore et est parti aux États-Unis. Et il a donné du travail à beaucoup d'Ahmadis qui étaient au chômage. Son épouse déclare qu'il était un exemple pour eux. Il était un père exemplaire, il était un mari exemplaire et il s'occupait très bien de sa femme et de ses enfants. Si quelqu'un frappait à sa porte pour lui demander quelque chose, il le retournait en lui accordant quelque chose. Les gens venaient lui voir pour présenter leurs problèmes et il donnait de très bons conseils. C'est pour cette raison qu'il était un membre du comité pour le commerce. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur. Quand on lui confiait une tâche difficile, il s'acquittait de son devoir en disant « Inch'Allah, je vais accomplir cette tâche ». Et Allah lui avait donné ses capacités et c'est pour cette raison qu'il a pu accomplir ses tâches. Il savait aussi comment faire travailler les autres. Il était très amène, il possédait de grandes qualités. Et il ne s'acquittait pas uniquement des devoirs qui lui étaient confiés. Si le secrétaire Tahrik Jadid lui disait de travailler ou de faire quelque chose pour lui, il sortait avec le secrétaire de Tahrik Jadid. Lorsque le quatrième calife a lancé un fonds pour la mosquée Baitul Futu, il a promis une somme et a payé cette somme immédiatement. Chaudhry Munawar Ali Sahib déclare que il avait le département de transport pour la Jalsa de Qadian et il s'est acquitté de son devoir et il a bien travaillé pour la Jalsa. Et il était tout le temps de très bonne humeur. Après s'être établi aux États-Unis d'Amérique, il est venu en 2009 au Pakistan pour travailler pour la Jalsa de Qadian, pour aider ceux qui partaient de Rabwa. Je l'ai connu au sein de la Khuddamul Ahmadiyya moi-même. Et il coopérait avec le centre et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible. Lorsqu'on l'appelait, quelle que soit la situation, il s'acquittait de son devoir et ne s'occupait pas d'autre chose. Généralement, les businessmen n'abandonnent pas leurs affaires. Et lorsqu'il m'a rencontré à Londres, je lui ai dit de prendre quelques précautions, mais en tout cas, Dieu a décrété qu'elle allait tomber en martyr. Il avait un souci constant, à savoir que certains des descendants des compagnons du Messie premier alayhi salam ne sont pas en train de servir la communauté. C'est là quelque chose qui le faisait souffrir et il a évoqué cela avec douleur. Je lui avais demandé son point de vue concernant certains faits et il présentait tout le temps de très bonnes opinions. L'ancien amir de la région de Gujranwala, que M. Sulanki avait l'habitude de dire qu'il n'y a aucune amitié, aucun lien de fraternité face à l'importance du califat. En 1974, certains membres de sa famille ont fait preuve de faiblesse, mais lui-même était très jeune. Il a abandonné sa famille et est parti à la maison de l'amir. Et là-bas, il y avait les membres de la communauté qui étaient sous la protection de l'amir et il était des services là-bas. Et son sacrifice a vraiment impressionné l'amir. Comme je le dis, il a eu l'occasion de faire de grands sacrifices. L'amir a dit qu'il était tout le temps prêt à faire de très grands sacrifices. Il y avait un terrain qu'on devait acheter et qu'il voulait payer. Et lui-même, il a fait acheter une maison de 40 000 roupies et il a payé toute cette somme de sa poche. Et cette maison est utilisée maintenant pour accueillir les invités. Et il avait déjà présenté une grosse somme pour la mosquée. Et il n'avait jamais dit qu'il avait déjà payé une grosse somme pour acheter cette maison. Et il a fait bâtir une maison pour accueillir les invités acadiens. Et il a aussi fait rénover la maison d'invités pour la Khodam al-Ahmadiyya. En tout cas, il était tout le temps prêt à faire des sacrifices financiers. Il était toujours prêt à sacrifier son temps. Et il faisait preuve d'obéissance et d'une grande fidélité. Et il honorait les Waqifin Zindagi. Il n'était jamais fier de son argent. Et à chaque fois qu'il s'enrichissait, je voyais qu'il faisait preuve d'une plus grande humilité. Ensuite, il y a Chaudhry Ejaz Nasrullah Khan, fils de Chaudhry Asadullah. Il était le neveu de Chaudhry Muhammad Zafar Khan. Et il était aussi le cousin de Hamid Nasrullah Khan. Et il est décédé à la mosquée de Model Town. Il a eu l'occasion de servir au sein de la communauté. Il a travaillé aussi avec quatre califes de la communauté Ahmadiyya. Son père, Chaudhry Asadullah Khan, était l'amir de la région de Lahore. Il a étudié à Qadian. Il a fait ses études secondaires à Lahore. Ensuite, il a étudié la loi à Londres. Il a travaillé pendant quelque temps à Londres lorsque son père est tombé malade. Suite aux directives du troisième calife, il est retourné. Et suite aux directives du calife, il s'est établi à Islamabad et il a pris sa retraite en 1984. Et ensuite, il n'a rien fait pour ce bas monde, mais il n'a fait que servir la communauté. Et il a eu plusieurs responsabilités au sein de la communauté. Il était amir de la région d'Islamabad, il était naïb amir de la région de Lahore, il était un membre du Qaza Board, il était un membre du comité pour le fiqh. Il avait 83 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était un moussi et il est décédé à la mosquée Darul Zikr. Ce jour-là, il est sorti de sa chambre et il a déclaré que je me sens très faible. Il a mangé. Ensuite, il a dit que je veux partir à midi. Son fils lui a dit de ne pas partir aussi rapidement. Il a répondu que je ne veux pas traverser au-dessus des gens pour m'asseoir au premier rang. Il y avait avec lui son fils et son petit-fils. Son fils lui a dit de s'occuper de son petit-fils. Mais il a dit non, prends ton fils avec toi. Son fils a dit que je suis de service aujourd'hui. Il a dit non, vas-y, prends ton fils avec toi. Donc son fils a confié son enfant à quelqu'un d'autre. Et Allah a donc protégé son fils et son petit-fils. Il était tout près du mihrab. Dans le premier rang, il s'asseyait et lorsqu'on leur a tiré dessus, il a reçu des balles au ventre. Quelqu'un a dit que l'amir lui a demandé de sortir. Il a répondu que j'ai prié pour tomber en martyr. Et on a trouvé son cadavre et le cadavre de l'amir Saheb côte à côte. Maulvi Bashiruddin a vu dans un rêve et qu'il y avait une voiture toute blanche qui est descendue du ciel et on a dit « Je suis venu vous prendre ». Après la prière d'Isha, il se couchait rapidement et il se réveillait au milieu de la nuit vers une heure pour accomplir la prière de Tahajjud. Il demandait à tout le monde de prier pour qu'il ait une bonne fin. Il avait un très grand amour pour le califat et il faisait les éloges de ceux qui servaient la communauté. Il disait que les gens abandonnent leur travail et se consacrent à aux travaux de la communauté. Il prêchait le message de l'Ahmadiyya. Et lorsqu'il terminait, il disait que si j'ai offensé quelqu'un, pardonnez-moi. et il soutenait financièrement un orphelin. Quelqu'un est venu travailler pour lui qui n'avait pas étudié beaucoup. Il a demandé à sa bru de l'aider pour compléter son éducation et de lui donner tout ce dont il avait besoin. Son fils a commenté à son sujet, à savoir qu'il était un moussi et qu'il avait ce désir de compléter son wasiya, de tout payer. Et par la grâce de Allah, 3 ans avant de tomber en martyr, il a pu payer tout ce dont il avait besoin de payer. Et quelques jours avant de tomber en martyr, il a complété les paiements de sa chanda. Il travaillait dans le bureau qui contrôle les monopoles. Et un jour, le Premier ministre a intercédé en faveur de quelqu'un. Lorsqu'il a reçu ce dossier, Chaudhry Saheb y a décelé des lacunes et a rejeté ce dossier. Ce dossier était venu du Premier ministre et lui, il a déclaré qu'il y a des éléments illégaux dans ce dossier. Le Premier ministre, qui était tout puissant à l'époque, était courroucé et il lui a menacé en disant que soit que tu dois compléter ce dossier, soit je vais prendre des mesures très sévères à ton encontre. Chaudhry Saheb n'avait jamais caché qu'il était Ahmadi et lui-même de temps en temps prêchait le message d'Ahmadiyya et il savait très bien que le Premier ministre savait qu'il était un Ahmadi. Car le Premier ministre a utilisé des paroles inappropriées à l'encontre de Chaudhry Mohammad Zafullah Khan. En tout cas, il a demandé au troisième calife de prier pour lui. Le calife a prié pour lui, a déclaré que sois patient et si tu es coureur, alors donne ta démission. Lorsque Chaudhry Saheb a reçu ce message de la part du troisième calife, il a déclaré quelle que soit la situation, je ne vais pas donner ma démission. Et il a écrit une très longue lettre au Premier ministre en disant que si je donne ma démission, on va peut-être croire que je cache quelque chose. Je n'ai rien à cacher, c'est pour cette raison que je ne vais pas donner ma démission. Et on a pris des mesures disciplinaires à son encontre et on lui a dit que tu as été licencié et on n'a pas donné les raisons. Encore une fois, Chaudhry Saheb a demandé au troisième calife de prier pour lui. Et le lendemain matin, l'amir de la région, qui était Chaudhry Abdul Haq, l'a rencontré et il lui a dit que j'ai prié pour toi et alors que je priais, j'ai entendu une voix qui disait « Pars en vacances, amuse-toi ». Et lorsque le gouvernement de Bhutto est tombé et qu'on a mis en place la loi martiale, on a commencé à faire des recherches et les gens sont tombés sur son dossier et sur ses papiers. Il y a eu une enquête et le fait qu'il a été licencié sans aucune raison. On l'a embauché de nouveau pour le même poste. Et on avait écrit aussi sur la note que durant ces 2 années, vous avez été congédié, considérez cela comme un congé. Et ainsi, ce rêve que avait vu l'autre s'est réalisé. Et voyez comment cela s'est passé d'une façon extraordinaire. Un ennemi de l'Ahmadiyya l'a congédié et il a été réinstauré par un ennemi de l'Ahmadiyya. Et ce fut le général Ziaul Haq qui l'a remis en place. Son fils déclare que les responsables de la communauté avaient dit qu'il devait changer de voiture afin de changer de plaque et il doit aussi changer sa route pour venir à Darul Zikr. Son fils déclare que mon père a accepté cela, mais on avait aussi dit qu'il devait de temps en temps ne pas venir pour la prière de Jumma. Son fils déclare que lorsque je lui ai dit ça, il a déclaré que moi je ne vais pas abandonner la prière de Jumma. quelle que soit la situation. Que pourront-ils nous faire? Tout au plus, ils vont faire de nous des martyrs et nous ne voulons que ça. Ensuite, il y a Chaudhry Hafiz Ahmed Kahloun, qui était un avocat dont le père était Chaudhry Nazir Ahmed de Sialkot. Il était lui aussi de la région de Sialkot. Il a étudié la loi. Il était un avocat. Il a travaillé à Sialkot et ensuite à Lahore. Il était un avocat de la Cour suprême. Et il avait 83 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il est décédé dans la mosquée de Model Town. Il était dans la salle principale de la mosquée Baitounour. Il a reçu une balle à la poitrine. On a essayé de lui ressusciter, mais il est décédé. Il était un parent du général Nasir Saheb, de Mohamed Ghalib Saheb, et de Chaudhry Ijaz Nasrul Khan. Il était très doux et jamais il n'a réprimandé quelqu'un et il traitait très bien ses serviteurs. Il était respectueux de la prière. Il partait à la prière à pied. Son fils Nasir Ahmed Kahloun est Amir suppléant de la Jamaat de l'Australie. Qu'Allah exalte son statut. On dit qu'il plaidait gratuitement pour des pauvres et il aidait les autres financièrement. À l'époque de la loi martiale, il a pris le cas de la Lajna Imaïla qui était poursuivie et il a donc aidé la Lajna Imaïla. Beaucoup de non-Ahmadis étaient présents pour présenter leurs condoléances. Il y avait même parmi eux des personnes qui n'étaient pas amen envers l'Ahmadiyya. On déclare qu'il y a eu un juge qui a présenté ses condoléances. Cette personne a demandé à ce juge de prier pour Hafiz Ahmed Kahloun et de prier pour son pardon. Le juge, qui était aveuglé par ses préjugés, a déclaré que je peux présenter mes condoléances, mais je ne peux pas prier pour son pardon. Le martyr se présentait pour la prière de Juma à la mosquée Baitounour et en dépit de sa faiblesse de vue, il se présentait aussi pour la prière de Maghrib. Il lisait le Saint-Coran pendant des heures. Lorsqu'il est décédé, sa fille a dit à sa petite-fille que son grand-père est monté au ciel. Cette petite-fille a été si influencée par son grand-père qu'elle a dit que peut-être que mon grand-père est en train de réciter le Saint-Coran là-bas au ciel. Voilà donc l'effet que tout Ahmadi doit avoir sur les enfants. Ensuite, il y a Chaudhry Mohamed Imtiaz, fils de Chaudhry Imtiaz. Son grand-père était Chaudhry Mohamed Bhutta du Gurdaspur et il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1935. Son grand-père était donc le seul Ahmadi et il a subi des persécutions de la part de tous les membres de son village. Donc, même après son décès, il a dû être enterré sur son propre terrain et pas dans le cimetière. Après la partition, les membres de sa famille sont venus à Sahiwal et en 1972, son père est venu à Lahore. Le martyr avait 34 ans. Imtiaz Ahmed était un moussi. Il travaillait à plusieurs niveaux au sein de la communauté Ahmadiyya et il était aussi secrétaire Ishaat. Il est décédé à la mosquée d'Arouzikar. Il était de garde à côté des portails de la mosquée lorsque les terroristes leur a lancé des assauts. Il a sauté sur un des terroristes et il a reçu des balles à la tête et à la poitrine. Et il est le premier martyr de cet incident. Son épouse déclare qu'il avait son propre business.
Voilà que ça a été.
Mais en tout cas, il a servi au sein de la communauté. Il a travaillé au sein de la Falun Ahmadiyya. Il a servi aussi pour le centenaire et il était toujours présent pour être de garde. Il était toujours présent pour la prière. Il a fait en sorte que ses enfants soient des Wakfenaw et il respectait les membres du bureau exécutif et il était un très bon leader. Il avait le désir de se dédier pour la cause de l'Ahmadiyya et il se considérait comme une personne qui s'était dédiée pour la cause de Dieu. Sur son journal, on trouve sur la première page que le couard meurt à plusieurs reprises, mais le brave meurt qu'une seule fois. Ensuite, sa sœur qui est aux États-Unis et qui était au Pakistan a dit que écrit quelque chose et il a écrit ces vers que cette fidélité et cet amour que nous avons en nous est en raison de la prière du Messie. Son épouse déclare qu'avant de tomber en martyr, il avait vu dans un rêve qu'il n'allait pas lui rester beaucoup de temps à vivre et avait demandé à son épouse d'être indépendante et avait fait un business pour son épouse. Il était régulier dans la prière tahajjud et il accompagnait son père pour la prière. Un jour, son épouse dit que je l'ai vu revenir vers 11h30, il est retourné à la mosquée à 3h. Je lui ai dit de se reposer et il a répondu que je n'ai pas besoin de prendre de repos, mais moi j'ai des soucis à faire concernant ma vie future. Ensuite, il y a Mukarram Ejazul Haq Saheb, fils de Rahmat Haq Saheb. Il était un parent de Fazal Ilahi Bakhsh, qui était un compagnon du Messie promis. Ils étaient de la région d'Amritsar. Son père travaillait dans les chemins de fer et il habitait Lahore. Et il avait un atelier d'électronique et il travaillait aussi comme technicien dans une chaîne de télé. Il avait 46 ans lorsqu'il est décédé. Il est décédé dans la mosquée Darul Zikr. Au cours de cet incident, lorsqu'on passait le serment envers le califat, il s'est mis debout et a répété ce serment. Son épouse aussi en a fait de même. Et il a prié à la mosquée Darul Zikr. Il est sorti de son travail et parti directement à la mosquée. Il était à l'extérieur, tout près des escaliers. Lorsqu'il a vu des terroristes, il a téléphoné à la maison et lui a demandé à son frère de venir à la mosquée avec des armes. Et il avait aussi téléphoné à son chaîne de télé. Et c'est là qu'il est tombé en martyr. Son épouse déclare qu'il avait de très bonnes qualités, il traitait bien tout le monde, il était régulier pour ses contributions et participait dans toutes les contributions. Le Nazim Atfal de sa région déclare que lorsque je prenais ses enfants pour un travail quelconque, et lorsque je retournais ses enfants, il me remerciait en disant que je vous remercie pour nous avoir donné l'occasion de servir la communauté. Ensuite, il y a Cheikh Nadim Ahmed Tariq, fils de Mokram Cheikh Ahmed Mansha. Ses aïeux étaient de la région de Chinyot. Lui-même, il est parti à Calcutta pour son business. Et en 1947, son père est parti à Dhaka. Et en 1971, ils se sont établis à Lahore. Son épouse vient de Lahore et le grand-père de son épouse était de Calcutta. Le martyr a travaillé dans un magasin de pièces détachées. Il avait 40 ans et il est décédé dans la mosquée Darul Zikr. Il était régulier à la prière Juma dans la mosquée Darul Zikr et il écoutait aussi le sermon en direct de cette mosquée. Il était assis à côté de l'amir et je crois qu'il avait blessé des balles au bras et qu'il est décédé de suite de ses blessures. Il aimait la réconciliation, il aimait tout le monde. Alors qu'il était au travail, il téléphonait à ses enfants pour leur dire de se présenter pour la prière. Voilà donc comment les pères doivent s'acquitter de leurs responsabilités. Et c'est ainsi que l'on pourra établir une relation avec Dieu. Il devait parcourir 4 km pour partir à la prière en congrégation. 4 km n'est pas beaucoup ici parce qu'on a des facilités de transport. Mais là-bas, il y a tellement de circulation que des fois c'est difficile de parcourir cette distance. En tout cas, il était régulier dans ses sacrifices financiers. Il avait aussi été responsable à plusieurs niveaux. Et il présentait aussi sa moto si on avait besoin. Il servait la communauté et les membres de sa famille. Participait tout le temps dans les sacrifices financiers. Ensuite, il y a Amir Latif Paracha, fils de Abdul Latif Paracha. Le père du martyr était de la région du Sialkot. Son père était un membre du bureau exécutif de cette région et il avait une relation proche avec le troisième calife. Lorsque le troisième calife passait dans la région, il logeait dans la maison d'Abdul Latif Saheb. Le grand-père maternel du père du martyr, Babu Mohammed Amin, avait prêté allégeance aux mains du premier calife. Le martyr a étudié à Salgoda, il a complété ses études à Lahore et il était régulier dans ses sacrifices financiers. Il servait les aînés de la communauté et il avait travaillé avec Mirza Abdul Haq. Au cours de l'incident, il a téléphoné à son frère en disant que je vois des cadavres autour de moi. Il y avait, lorsqu'on a retrouvé son corps, des traces de blessures sur son visage, comme s'il avait reçu des coups de crosse. Peut-être qu'il s'est battu avec un terroriste ou que le terroriste voulait savoir s'il est mort ou pas. Et il a aussi reçu des blessures suite à l'explosion d'une grenade. Il était à l'extérieur de la mosquée et il est tombé un martyr là-bas. Son épouse déclare qu'il était toujours honnête et en raison de son honnêteté, certains bijoutiers lui confiaient des bijoux de grande valeur. Il n'a jamais caché le fait qu'il était Ahmadi. Son père était malade et il a servi son père et sa mère. Et il participait dans les fonds et aidait les autres et cachait aussi ses sacrifices. Et il aidait les malades de sa région. Il avait un grand sens de sacrifice. Il était régulier pour la prière et pour la récitation du Saint-Coran. Et il se levait au milieu de la nuit pour lire le Saint-Coran et pour être présent pour la prière de Tahajjud. La mère du martyr déclare que je voyais mon mari depuis quelque temps en rêve. Mon mari qui est décédé. Une employée du martyr déclare que quelques jours auparavant, il avait apporté des vêtements pour sa mère et sa mère a dit que j'ai assez de vêtements, mais le fils a déclaré prenez ces vêtements car je ne sais pas si je veux vivre longtemps. Ensuite, il y a Mokaram Mirza Zafar Ahmad. Il est né en 1954 et ce fut au cours du deuxième califat que son grand-père Mirza Nazir Ahmad avait embrassé l'Ahmadiyya.
Mirza Nazir Ahmad
Il a étudié à Lahore, ensuite il a étudié à l'université. Pour certaines raisons, il a dû quitter l'université, il est parti à Karachi. Là-bas, il a fait des études en mécanique. Il travaillait à Karachi dans son domaine. Ensuite, il est parti au Japon. Et depuis 1981, il était au Japon en tant qu'ingénieur en panneaux solaires. Et il a servi la communauté là-bas. Et lorsque la mission a été fermée à Tokyo, il a utilisé sa maison comme mission. Et ensuite, il est parti en Corée. Et en 1985, il était présent au Royaume-Uni en tant que représentant du Japon. Et ensuite, il a eu l'occasion en 1999 de poser la première pierre de la mosquée Baitul Futur en tant que représentant du Japon. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Jama du Japon. Le quatrième calife avait évoqué son exemple en disant qu'Allah fasse que tous les membres de la Jama du Japon puissent suivre son exemple. Pendant 21 ans, il a donc vécu au Japon, il a aussi fait des études là-bas. Et il est retourné au Pakistan en 2003. Et il avait fait de sa maison un centre pour la prière. Il est décédé à l'âge de 56 ans et il était moussi. Il était toujours assis dans le premier rang et il était assis là-bas, tout près de l'imam. Et il a reçu une balle à la tête et des blessures à la main. Son épouse déclare qu'il avait un très grand amour pour le califat. Lorsqu'il partait à Londres, il faisait des efforts pour prier derrière le calife. Il écoutait les sermons avec attention. Et s'il n'avait pas pu écouter le sermon en direct, et s'il ne le faisait pas le même jour, il était toujours anxieux. L'amour pour tous et la haine pour personne étaient son principe directeur. Et il était proche de ses enfants. Il respectait ses engagements. Il respectait ses promesses et il était quelqu'un qui faisait de grands sacrifices. Il était simple dans toutes choses. Il était un très beau mari. Son épouse déclare qu'il s'occupait de toutes choses à la maison. Quand j'étais fatigué, lui-même préparait le repas et il n'avait pas l'habitude de se plaindre. Malik Munir du Japon écrit que lorsque Mirza Zafar était au Japon, il n'était pas encore marié, il était très simple, il ne parlait pas beaucoup, il était très doux, il était très pur, il était toujours prêt à servir la communauté et il était tout le temps prêt à servir. Il avait un très grand sens de l'obéissance et il respectait tous les responsables de la communauté à tout niveau et il les honorait tous et il était toujours prêt à servir. Pendant un an, il a porté le titre de Khadim exemplaire. Lorsqu'il acceptait une tâche, il s'acquittait de son devoir. Avant de partir pour le Japon, il servait la communauté. Marfour Ahmad Munib, un missionnaire de la Boa, déclare qu'il a vécu là-bas au Japon. Et il a vécu aussi en compagnie de Mirza Zafar, qui était toujours prêt à servir la communauté. Et il travaillait autant qu'un Waqfe Zindagi. Il était un exemple pour les autres. Il sacrifiait son temps, ses biens. Il était missionnaire honoraire. Il était secrétaire mâle. Il avait un très grand amour pour le calife. Il pleurait au cours de la prière. Et il était tout le temps soucieux lorsque les autres souffraient. Ensuite, il y a Mirza Mahmoud Ahmad, fils de Akbar Ali. Il était de la région de Narwal. Son grand-père, Inayatullah, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il travaillait dans la télécommunication et il avait pris sa retraite en 2008. Il est resté à Lahore pendant 35 ans et il avait 58 ans. Et il est décédé à la mosquée Beit Nour de Modeltown. Généralement, il priait de cette mosquée. Au cours de cet incident, il était assis dans la salle lorsqu'il a reçu une balle au front et il est décédé sur le coup. Son épouse déclare qu'il était toujours prêt à servir la communauté. Il a eu l'occasion de participer dans le plan Waqfe Arzi. C'était une personne très simple, une personne qui faisait de grands efforts. Qaisar Mahmoud était là-bas de service et 4 jours avant, son épouse avait vu dans son rêve qu'il y avait un très beau jardin où il y avait aussi un vent frais et une rivière. Son époux lui a dit que j'ai bâti une maison et je vais habiter ici. Il y avait du parfum dans ce palais. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Cheikh Ahmad Akram Athar, fils de Cheikh Shamsuddin. Le père du martyr était de la région de Sargodha. Lorsque leurs parents sont décédés de la peste, ils sont partis de cette région. Le père du martyr a eu l'occasion de servir le Messie promis et Hadrat Muslim Maoud, mais il a embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Le beau-père du martyr était un compagnon du Messie promis. Et c'est grâce à lui que la famille de Mirza Abdul Haq a embrassé l'Ahmadiyya. Munir Ahmad Munawar, qui est en Pologne, et son neveu, il avait 66 ans lorsqu'il est tombé en martyr et il est décédé à la mosquée de Garishao. Il était assis sur une chaise et il s'est levé en dernier et il a reçu des balles aux côtes et à la tête. Son épouse déclare qu'il disait depuis quelque temps que son temps est proche et il était toujours silencieux. Sa bru avait vu dans un rêve qu'il y avait la salle de l'Ansarullah, une salle qu'elle n'avait jamais vue, et de là-bas, elle a pris 3 cadeaux. Et c'est dans la salle de l'Ansarullah qu'on a dirigé la prière de ses martyrs. Lui-même, il aimait prêcher et il prenait le journal Al-Fazl dans sa poche pour prêcher. Et il était contre la cigarette et interdisait les autres d'abandonner la cigarette. Il était régulier dans la prière Tahajjud. Il aimait prier. Et il priait pour tout un chacun en prenant les noms des personnes. Et lorsqu'il recevait son salaire, il partait contribuer. Voilà donc comment contribuer. Il ne faut pas attendre qu'on ait des retards pour participer dans ces fonds. Et il ne faut pas non plus critiquer le secrétaire mal. Et lui-même, il avait écrit un article pour le centenaire du califat. Ensuite, il y a Mansour Beg Saheb, qui est le fils de Mirza Sarwar Beg. Les aïeux de ce martyr étaient de la région d'Amritsar. Et son oncle avait prêté allégeance en 1953 et son oncle a été assassiné en 1985 par un ennemi de l'Ahmadiyya. Et Mirza Mansour avait 29 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était un moussi par la grâce d'Allah. Il était secrétaire Ishad, Nazim Tahriki Jadid et Il avait aussi servi pour la sécurité. Il est décédé dans la mosquée Bait Nour. Ce matin-là, le Qaïd de sa région lui a dit de partir et le Qaïd l'a téléphoné et il a répondu que Qaïd Saïb, ne vous souciez pas et s'il en est besoin, je vais prendre la première balle. Il était dans la mosquée de Model Town pour les vérifications. Il était trop peuré du portail lorsque les terroristes leur ont tiré dessus. Il a reçu plusieurs balles et il en est décédé. Avant cela, le matin, il avait raconté son rêve. Il avait déclaré que quelqu'un voulait me frapper. Il avait un chien noir qui courait derrière moi. Il était toujours fidèle, il était toujours de bonne humeur. Il était régulier pour ses 5 prières quotidiennes. Son épouse a 26 ans et elle est enceinte. Qu'Allah lui accorde un enfant pur, un enfant qui vivra longtemps. Ensuite, il y a Mia Mohamed Munir, fils de Molvi Abdussalam. Ce martyr était le petit-fils du premier calife et il naquit dans la maison de son grand-père en 1940. Son grand-père maternel avait eu la permission de prendre le serment d'allégeance et beaucoup de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. En 1962, il s'est établi à Lahore. Il avait 70 ans lorsqu'il est tombé en martyr et il sortait de la maison vers midi pour partir à la prière de Jumma. Ce jour-là, il était un peu malade, mais il est parti à la mosquée. Il était assis à côté du général Nasir. Et ensuite, il est entré dans la salle. Suite à l'attaque, il a essayé de fermer la porte. Mais un des terroristes a fait passer son canon et leur a tiré dessus. Il a reçu une balle à la tête. 10 ans auparavant, il avait vu dans un rêve qu'il y avait une tombe à côté de la tombe de Hadrat Omar Farouk. Et on lui a dit que c'était sa tombe à lui. Et il a interprété cela que ce sera sa tombe parce qu'il était parmi les descendants de Hadrat Omar Farouk et il est décédé lui aussi en martyr. Après son décès, sa fille a vu que son père est venu le voir et lui a dit « Prépare ma chambre ». Sa fille a préparé sa chambre et elle a dit que certains invités sont venus et veulent voir cette chambre. Son fils raconte que lorsque son père allait se marier, certaines personnes ont dit qu'il était parmi les Lahori et qu'il n'avait pas prêté allégeance au calife. Et son cas a été présenté au troisième calife. Et le troisième calife a déclaré que ce n'est pas la peine qu'il renouvelle sa baya ou son serment d'allégeance, car il est le petit-fils de celui qui a prêté allégeance la première fois. C'est-à-dire qu'il était le petit-fils du premier calife et le Maulana Abdulata Jalandari a officié son nikah. Un de ses parents déclare qu'il aimait aider les pauvres et qu'il visitait les malades. C'était là ses qualités. Et lui-même, il avait aidé les jeunes filles pour se marier et il a aussi aider certaines personnes pour leurs études. Et il savait recevoir les invités. Il était régulier dans la prière tahajjud. Ensuite, il y a le docteur Tariq Bashir Saheb, fils de Chori Yusuf Khan. Son père était de Shakargarh et son père avait prêté allégeance en premier au sein de sa famille. Et suite aux directives du deuxième calife, il est parti aussi pour s'occuper des terrains de la communauté. Le martyr lui-même est né à Karachi, il a fait des études à Lahore et ensuite il a étudié la médecine. Et ensuite, il a travaillé dans un hôpital pendant 15 ans et il travaillait aussi dans un hôpital de Lahore. Il avait 57 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la mosquée d'Aruzikar. Il était dans la salle principale et lorsque l'on a envoyé la première grenade, il en est décédé. Son épouse avait vu dans un rêve qu'il y avait une belle maison au ciel, une maison qui flottait dans l'air. Et il était dans cette maison. Et elle a vu dans un rêve qu'il y avait un tremblement de terre et qu'elle cherchait quelque chose et qu'elle ne voyait pas cette chose. Son épouse déclare qu'il était très simple. Il ne réprimandait jamais personne. Il avait un très grand amour pour ses filles. Il aimait servir les autres. Il avait une très grande sympathie. Le propriétaire de la maison qu'il louait est tombé sans connaissance lorsqu'il a su qu'il a été tué. Pendant 6 ans, lui-même partait payer son loyer et jamais le propriétaire de la maison est venu lui demander son dû. Il aimait lire les livres du Messie premier salam, il était régulier dans ses contributions et il a dit à sa femme qu'on doit consacrer une somme d'argent quotidiennement pour les pauvres. Il écoutait mes sermons régulièrement. Son fils a complété ses études de médecine et lui aussi a été blessé. Qu'Allah lui accorde la santé et qu'Allah accorde la santé à tous ses blessés. Ensuite, il y a Arshad Mahmoud Bhatt, fils de Mahmoud Ahmad Bhatt. Son arrière-grand-père, Abdullah Bhatt Saheb, avait embrassé l'Ahmadiyya et il était de la région de Sialkot. Son arrière-grand-père maternel, Mohammad Jan, était de Daska. Il était un compagnon du Messie promis. Et son père a travaillé dans l'armée de l'air et il a vécu dans plusieurs endroits. Le martyr est né à Lahore et il avait 48 ans. Il était Naïb Zayman Sarullah de sa région et secrétaire Tahrir-e-Jadid. Et il est décédé dans la mosquée Bayt Nour. Il s'était préparé rapidement ce jour-là. Généralement, il est accompagné de son frère car il a été affecté par la polio. Et ce jour-là, il était assis dans le premier rang et il a reçu 3 balles et il en est décédé. Son épouse déclare que le martyr était régulier pour les 5 prières quotidiennes. Il récitait le Saint-Coran à haute voix quotidiennement. En dépit de son handicap, il faisait tout lui-même. Il avait un grand amour pour le califat et participait dans tous les fonds de la communauté. Il avait lu plusieurs ouvrages de la communauté et il priait souvent. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mohamed Hussein Malhi. Il est de Sialkot. Son père a embrassé l'Ahmadiyya en premier dans sa famille. Il a vécu à Sindh pendant 34 ans. Il a vécu à Lahore et il avait 68 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Et il est décédé de la mosquée Bayt Nour à Model Town. Et il a été enterré à Lahore. Ce jour-là, il est sorti vers 1h et il était dans la première salle de la mosquée et il a été touché au ventre et au bras. On l'a pris ainsi blessé à l'hôpital, mais il est décédé dans la salle d'opération. Son épouse déclare qu'il était régulier pour les 5 prières quotidiennes et pour la prière de Tahajjud, il était très vertueux. Il était un électricien et il aidait les pauvres et il avait lui-même fait bâtir une mosquée dans sa région. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mukarram Mirza Mohamed Amin. Le père du martyr était du Cachemire et il avait prêté allégeance en 1952. Après cela, lui-même a prêté allégeance. Il avait 70 ans lorsqu'il est décédé et il est tombé dans la mosquée d'Aruzikr. Généralement, il priait dans cette mosquée. Il était assis dans la première rangée. Il a été blessé par balle et par l'explosion d'une grenade. Mais il est décédé le 31 mai à l'hôpital. Avant cela, il s'était levé pendant la nuit et avait dit « Allah Akbar » à haute voix. Il était toujours bienveillant. Il participait dans tous les programmes de la Jamaat. Ensuite, il y a Mukarram Malik Zubair. Ce martyr est de la région de Faisalabad. Son grand-père avait embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Messie premier l'Islam, mais il n'a pas pu visiter le Messie premier l'Islam. Le martyr a travaillé dans la compagnie Wabda et un mois avant sa retraite, il est venu s'établir à Lahore. Son père était de ceux qui avaient bâti la mosquée Baitul Fazal. Il est venu prier à la mosquée Baitul Nur depuis un certain temps et il a demandé à son fils de l'apporter dans cette mosquée. Il avait 61 ans et il est décédé à la mosquée Baitul Nur. Il était assis dans la salle principale et son fils était dans une autre salle. Au cours de la fusillade, il partait dans une direction quelconque. Son fils le cherchait. Son fils ne l'a pas vu, mais il a vu son fils et elle a dit à haute voix, « Pourquoi te sauves-tu? Si quelque chose va se passer, nous serons martyrs et nous allons mourir avec nos frères. » Et c'est là qu'il a reçu une balle au cœur et il a été blessé grièvement et il est décédé à l'hôpital. Son épouse déclare qu'il était régulier pour la prière et qu'il n'a jamais raté la prière tahajjoud. Il regardait la MTA régulièrement. Il disait que si je ne pouvais pas me lever lorsque j'étais fatigué, c'était comme si que quelqu'un m'avait secoué pour me réveiller. Son fils avait acheté une voiture et il lui a dit que « Mon fils, ne mets pas de radio ou de lecteur DVD dans ta voiture. Lorsque tu es dans ta voiture, récite Subhanallah et le Daroud. » Son frère a dit que lorsqu'il marchait, il disait à son frère que lorsque je vais pas traverser un tel endroit, je vais réciter telle ou telle prière. Son fils voulait faire assurer sa voiture, mais il lui a dit que ce n'est pas la peine de prendre de l'assurance. Chaque mois, contribue quelque chose au nom de ta voiture, car c'est elle qui va te protéger. Son fils a suivi ses directives. Le martyr était un très bon boxeur et il avait remporté plusieurs victoires. Ensuite, il y a Mohammad Nawaz Sahib, qui est le fils de Chaudhry Ghulam Rasool. Ses aïeux étaient de la région de Sialkot. Un de ses oncles était Chaudhry Ghulam Ahmad Mahar et son père était Chaudhry Shah Mohammad Mahar. Ils étaient de la région de Narwal et étaient des compagnons du Messie promis. Son père et son frère aîné ont embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du deuxième calife et toute sa famille a embrassé l'Ahmadiyya. Il a travaillé dans l'enseignement en 1991. Il a pris sa retraite et en octobre 1992, il est venu à Lahore. Il était mohassib de sa région et il avait 80 ans et il est décédé à la mosquée d'Aruzikr. Il avait un lien ferme avec la mosquée d'Aruzikr. Il disait que lorsqu'il étudiait à Lahore, il avait participé à la construction de cette mosquée. C'est pour cette raison qu'il avait un lien avec cette mosquée. Au cours de cet incident, il avait porté de nouveaux vêtements et une nouvelle paire de chaussures. Il est venu à la mosquée. Il était assis lorsqu'il a été tué suite à l'explosion d'une grenade. Son épouse avait vu quelque temps de cela dans un rêve que « Béni soyez-vous, car votre mari est vivant ». Son mari déclare qu'il était très actif. On dirait qu'il avait 20 ans de moins. Il avait participé dans plusieurs compétitions, il maîtrisait plusieurs langues et il aimait lire beaucoup. Ensuite, il y a Mokaram Sheikh Mubashir Ahmad, fils de Sheikh Hamid Ahmad. Ses aïeux étaient de Qadian. Après la partition, ils sont venus à Rabwa et il a vécu pendant 35 ans à Lahore. Son grand-père, Sheikh Abdurrahman, avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Meher Bibi Sahiba, qui fait partie des compagnons du Messie premier, était sa grand-mère maternelle. Il avait 47 ans lorsqu'il est décédé dans la mosquée de Model Town. Il était dans le troisième rang. Lorsque le terroriste est entré dans la mosquée, ils avaient essayé de fermer une des portes, mais il a reçu une balle au ventre. Après cela, il a été blessé grièvement et il avait perdu du sang par l'oreille. Il est resté ainsi pendant plusieurs heures. Il était vivant. Il avait placé sa main sur son ventre blessé et il est parti lui-même dans la direction de l'ambulance, mais il est décédé à l'hôpital. Ce jour-là, on dirait qu'il n'allait pas partir à la mosquée, mais en fin de compte, il est parti à la mosquée Beit Nour. Et il prenait aussi son beau-père pour la prière, mais ce jour-là, il était malade. Et son beau-père lui a dit que je ne vais pas partir. Et ce jour-là, il est parti tout seul à la prière. En cours de route, sa voiture est tombé en panne. Après cela, il est parti chez quelqu'un dans un bureau quelconque. Il a commencé à travailler lorsqu'il y a eu une coupure d'électricité. Il est sorti et il a rencontré son frère. Et son frère lui a dit de partir à la prière. En tout cas, ils sont partis à la prière. Il n'avait pas donc fait le travail qu'il devait faire et ils sont partis à la prière de Juma. Son épouse déclare qu'il était un mari exemplaire. Ils vivaient tous ensemble et son mari s'occupait de tout le monde et il n'a jamais donné l'occasion à quelqu'un de plaindre de sa personne. Sa sœur avait vu dans un rêve, avant qu'il ne tombe en martyr, que son frère Mubashir est dans une voiture blanche qui monte au ciel. Deux jours après, sa fille a vu dans un rêve que son père se trouve tout près de la porte et on lui a demandé s'il est vivant. Il a répondu qu'il va bien. Il était une personne très simple, une personne imbue de sympathie, une personne qui aimait les autres. Il honorait les grands et les petits. Qu'Allah exalte le statut de tous ces martyrs. Qu'Allah soit le protecteur de leurs femmes et de leurs enfants. Qu'il accorde aussi la patience à leurs parents qui sont vivants et qu'Allah renforce la foi de leurs suivants et de leurs descendants. Qu'Allah fasse qu'ils soient tout le temps fermes dans leur foi. Qu'Allah accorde à tout Ahmadi sa protection.